Martine Bullard, du monde diplomatique. La première question que j'aurais tendance à poser, c'est est-ce que la Chine est une telle cocotte minute actuellement, comme semble le montrer le film?
Cocotte minute, je ne sais pas le mot que j'emploierais, mais bien qu'on ne sait pas si le couvercle va sauter ou pas. En toute cause, ce qui est vrai, c'est que d'abord, John Junker est vraiment un grand cinéaste et fait partie de ce courant d'intellectuels chinois qui se penche sur les questions sociales et qui traite des questions sociales. C'est vrai dans ses films, tous ses films, et c'est vrai pour d'autres cinéastes, et c'est vrai pour d'autres écrivains notamment. C'est-à-dire que la question sociale, chez une partie des intellectuels, est vraiment une question qui devient importante. Est-ce que ce qu'il a décrit là, les quatre exemples qu'il a pris là, sont d'abord des exemples tirés de, sont des vrais incidents, des vrais, je sais pas ce que vous dire, incidents ou accidents, ou en tout cas des vrais faits divers qui se sont déroulés à travers la Chine et qu'il a reconstitué. C'est une partie de la Chine, c'est-à-dire cette violence-là, cette violence individuelle contre soi-même, comme ce jeune qui se suicide et qui rappelle les suicides qui ont eu lieu notamment chez Foxconn, qui avait été l'origine. Foxconn, vous savez, c'est cette entreprise taïwanaise qui fabrique les iPhones, les iPads, pour les Américains notamment, et qui est une usine qui est un peu une usine phare de ses plus grands employeurs étrangers de Chine. Et il y a eu une série de suicides chez Foxconn qui ont donné lieu à des grèves de salariés, de migrants, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur les migrants. Et donc la violence contre soi-même ou contre les autres est vraiment une violence qui existe aujourd'hui. Dans le Shaanxi, où une partie de ce film a été tournée, par exemple, il y a quelques jours, il y a eu des attentats, des bombes qui ont été mises devant le siège du comité central, enfin du parti communiste chinois local, et qui montre qu'il y a une volonté de passer à des actes un peu plus violents que jusqu'à présent. Toutefois, ce n'est qu'une partie de la Chine. Je reviens toujours sur le fait que, en gros, depuis ces 30 dernières années, il y a quand même 300, 400, 500 millions, on n'est plus à 100 millions près en Chine, mais disons 400 millions sur de population qui a des standards de vie très proches des nôtres, qui sont sortis de la pauvreté, qui vivent plus que correctement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette misère qu'on vient de voir, hein, bien entendu. Mais il y a un développement assez impétueux de la Chine et qui a permis une partie de la population à se sortir des difficultés qu'elle avait. L'un des gros points forts ou des plus grosses difficultés aujourd'hui, et que décrit très bien le film, ce sont les migrants. Ces migrants, ce sont des ouvriers paysans qui ont quitté la terre pour aller travailler en ville, ou en tout cas dans la ville d'à côté, dans les usines pour l'essentiel, quelquefois dans les usines, dans le bâtiment, un peu dans l'agroalimentaire, mais essentiellement usines et le bâtiment. Or, ces migrants, d'abord, ils vivent comme, pour une partie d'entre eux, ils vivent comme vous l'avez vu dans les dortoirs, où les gens sont entassés à 8, 10, 20, quelquefois 50, quelquefois ce sont des très gros dortoirs dans lesquels on ne peut rentrer qu'avec une carte, on peut sortir qu'avec une carte. C'est un système assez dur, notamment pour les jeunes filles, parce qu'il y a la pression de l'employeur, il y a aussi la pression sociale pour les jeunes filles, donc elles vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Or, ces migrants, en Chine, les droits sociaux, c'est-à-dire le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à avoir un logement, est lié à votre lieu de résidence. Vous avez un certificat de résidence, on appelle ça le hukou, qui vous dit où vous habitez, et en fonction de l'endroit où vous habitez, vous aurez le droit à un logement ou à la santé, etc. Ce qui veut dire que les 300 millions, on compte à peu près 300 millions de migrants, c'est-à-dire de ces paysans qui sont devenus ouvriers du bâtiment, ouvriers dans l'industrie, n'ont pas le droit aux mêmes avantages sociaux que les autres. Ils n'ont pas le droit au logement, par exemple, c'est-à-dire avoir un logement individuel loué, je ne parle même pas d'acheter, quand on est migrant, est extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Alors naturellement, quand on est un migrant, qu'on vient d'une ville de campagne et qu'on est ingénieur, qu'on est cadre, généralement on achète. et donc on a le droit, parce que tout s'achète en Chine. Mais quand on est simple ouvrier, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est la réalité des migrants telle qu'on le décrit là, avec des conditions de travail et des droits extrêmement réduits. Et puis, il y a la nouvelle génération de migrants, un peu optimiste, si je puis dire. C'est-à-dire, cette nouvelle génération, c'est la deuxième génération, celle dont les parents étaient déjà migrants et qui ne sont plus disposés à se laisser faire comme ça. Et il y a une conjoncture favorable pour eux. D'une part, la population active en Chine est en train de diminuer en raison de du vieillissement. Donc, il y a un peu moins de main-d'œuvre disponible dans les endroits fortement employeurs comme Shenzhen, Canton, qu'on voit ici. Donc, ils ont des capacités de négociation un peu plus grandes. Et puis, ils ont appris. Et donc, ils ont commencé à s'organiser collectivement, à faire valoir leurs droits. Il y a eu des grèves depuis, notamment en 2010, depuis 3-4 ans, assez fortes, avec des salariés qui s'organisent, avec des paysans aussi qui s'organisent, et qui sont aidés par des cabinets d'avocats. On appelle souvent ces cabinets, sont appelés ONG, curieusement. C'est-à-dire, ce sont des associations qui sont reconnues par le pouvoir local, en général, pas toujours, mais en général, et qui servent d'intermédiaire entre le patronat et les collectivités locales, enfin la direction du parti, c'est comme ça que ça se passe, et les ouvriers en grève. Et ça, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des proto-syndicats, comme d'autres, c'est pas complètement des syndicats indépendants, ils sont pas reconnus comme syndicats. À tout moment, le pouvoir local peut décider qu'on les ferme, qu'on ferme ce cabinet d'avocats, de façon autoritaire ou de façon souterraine, si je puis dire. C'est-à-dire, d'un coup, on leur coupe l'électricité et l'eau, donc ils peuvent plus tenir leur permanence. Tout d'un coup, le propriétaire qui en a loué les locaux multiplie par 10 le montant du loyer, donc on peut plus assumer. Il y a une série de choses comme ça, mais quand même, malgré toutes ces tracasseries qui existent, il y a un début de commencement de quelque chose qui, jusqu'à présent, a permis quand même de gagner un certain nombre de droits pour les migrants, notamment le droit à être soigné. Parce que vous voyez dans l'usine, à un moment donné, quand il a son accident de travail, le patron dit « Ah, l'usine va prendre en charge ses frais médicaux ». Mais 4 fois sur 10, l'usine ne prend pas en charge les frais médicaux. Il faut lutter pour que l'usine prenne en charge les frais médicaux en cas d'accident du travail. Donc voilà, c'est partie des organisations et des luttes qui se déroulent aujourd'hui et qui laissent ouverte un possible changement et pour éviter qu'il y ait une totale explosion. Ce que je vous propose, c'est que je vous laisse poser des questions, peut-être, parce que vous me coupez si je suis trop longue dans mes réponses.
Vous êtes déjà assommé.
Le film n'a pas été censuré. C'est-à-dire qu'il a eu l'autorisation pour être filmé, il a eu l'autorisation de la censure. Sans, dit Chia Chong-kui, trop de difficultés. Pratiquement pas. En revanche, pour l'instant, il n'est pas diffusé. Il n'est pas diffusé. Alors, on a d'abord dit que c'était la période très importante d'une réunion du Parti communiste chinois, le troisième plénum du 18e comité central du parti. C'est là où ils viennent d'adopter, il y a une quinzaine de jours, un plan de route pour les 5 prochaines années. D'ailleurs, un plan de route assez important. Donc, on a d'abord dit, c'est pas possible, on ne peut pas sortir ce film au moment où il y a le parti se réunit. Puis, on a dit, ah, c'est pas possible parce que les attentats de Shaanxi montrent qu'il y a une violence et donc ça peut inciter à la violence. Pour l'instant, lui, le réalisateur, dit, oh, personne ne m'a dit que ce serait pas diffusé. Mais, pour l'instant, ce n'est pas diffusé. Et il rajoute une deuxième chose, c'est qu'il dit, il y a d'une part cette censure politique du parti, et puis il y a une autre censure que la censure économique. Parce que le marché du cinéma n'aime pas trop qu'on traite des questions de la réalité sociale. Aujourd'hui, ils préfèrent les blockbusters à l'américaine, enfin chinois, parce que c'est maintenant les blockbusters chinois sont les premiers regardés en Chine, mais plus, je sais pas, Kung Fu contre Panda, par exemple, des choses comme ça. On ne sait pas. Pour l'instant, il n'a jamais été. Pour l'instant, il n'a jamais subi la censure. C'est-à-dire, y compris quand il a fait Still Life, qui était quand même très dur, il n'a pas subi la censure. Mais il est possible que là, vraiment, ça fasse référence à la violence individuelle, c'est-à-dire les individus qui sont devant un mur, qui n'ont personne pour les défendre et qui choisissent la violence. Il est possible que là, à un moment où justement cette question-là est importante, la direction du parti choisisse de pas différer la diffusion. De toute façon, c'est jamais un grand public hein, pour ce genre de film. Faut pas, enfin, c'est comme en France, hein, quand on a ce genre de film sur les problèmes sociaux.
Est-ce que le smog qu'on voit là est permanent dans ces grandes villes, ou est-ce qu'ils ont des moments où ils voient le ciel bleu?
Il n'y a pas que dans les grandes villes, malheureusement, parce que quelquefois dans les campagnes, c'est extrêmement pollué. Je mentirais si je disais que je n'ai pas jamais vu Pékin avec un ciel bleu, ça m'arrive, ça y arrive. Shanghai aussi, d'autres villes aussi, à l'intérieur du pays, notamment. Mais quand même, il y a une énorme pollution. La pollution est triple, c'est la pollution due aux voitures, qui est vraiment considérable, la pollution due au chauffage, notamment au chauffage au charbon. Alors à Pékin, le chauffage au charbon a été interdit à la veille des Jeux Olympiques. Mais il y a 20 ans, donc à Pékin, c'était horrible, puisqu'on brûle des briques de charbon très concentrées, et ça fait une poussière considérable. Puis la troisième pollution, c'est la pollution due aux usines, les grandes aciéries, les usines chimiques. Et il y a une quatrième que j'ai oubliée, une quatrième pollution qui n'est pas la pollution de l'air, là, cette fois-ci, mais qui est la pollution des rivières, due aux industries chimiques, notamment, et qui est extrêmement importante. La première cause de lutte en Chine, ce sont les luttes pour l'environnement, enfin, contre la dégradation de l'environnement. Alors, ça ne porte pas à Pékin sur l'utilisation de la voiture. C'est une énorme question, ce problème d'utilisation de la voiture à Pékin. Quand vous allez au-delà du cinquième périphérique, vous partez du cœur de Pékin, il faut compter 2 heures, 2 heures et demie, sinon vous ne pouvez pas traverser Pékin, sauf si c'est à 3 heures du matin et encore. Donc la question de la voiture est extrêmement importante, avec une conduite alternée comme dans les pays occidentaux, avec des plaques, selon le numéro de plaque, vous avez une conduite alternée, mais ça ne suffit pas, évidemment. Il faudrait un autre modèle de consommation. Alors, le modèle de consommation est le modèle occidental. Au moins là-dessus, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc c'est la voiture comme signe extérieur de richesse, etc. Et puis la deuxième cause, ce sont naturellement les usines. On a fermé les usines les plus polluantes autour de Pékin, notamment à la veille des JO, mais on les a fermées pour les déplacer 100 km plus loin. Donc ça, le problème reste entier. Cela dit, c'est un problème qui est pris en compte par le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a eu un développement impétueux avec une course à la croissance, une course au développement avec des aspects positifs qu'on connaît, c'est-à-dire le niveau de vie qui s'est quand même considérablement amélioré. Les côtés négatifs, c'est que le modèle est un modèle occidental de productivité à outrance et de production productiviste à outrance, avec en plus l'absence de protection, c'est-à-dire que toutes les usines polluantes une partie des usines polluantes des États-Unis ou de l'Europe sont parties en Chine, où elles servent à réexporter les produits qu'on fabrique en Chine. Cela dit, il y a une vraie prise de conscience, à la fois pour des raisons évidentes, on estime entre 100, 150 millions le nombre de gens qui meurent en excès, qui meurent en raison de la pollution. Ça, c'est le rapport de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé, pardon, qui a fait beaucoup de bruit à l'intérieur de la Chine. Donc, c'est un problème de santé publique. Et puis, je pense que les dirigeants chinois et les chefs d'entreprise chinois pensent que c'est la nouvelle frontière, pensent que c'est un nouveau moyen de se faire de l'argent. Alors, on l'a vu, sur les panneaux solaires, ils étaient absents il y a 15 ans, ils sont à la pointe aujourd'hui. Sur la production d'électricité en éolienne, ils sont parmi les premiers producteurs mondiaux. Donc il y a un vrai changement de ce point de vue-là, y compris parce qu'ils pensent que c'est un moyen de se faire de l'argent à terme.
Comment est-ce que
vous dites ? Le Parti communiste chinois, j'ai fait une grande enquête l'année dernière, et j'avais mené pendant plus d'un an, en allant plusieurs fois en Chine, sur justement le Parti communiste chinois. Il y a 800 millions de membres. Et c'est une augmentation, et ça continue d'augmenter, et les jeunes vont au Parti communiste chinois. Pour deux raisons. Il y a d'abord une raison de carrière, c'est évident. C'est-à-dire, comme disait une jeune adhérente elle avait une trentaine d'années, du Parti communiste chinois, elle me disait, c'est comme une sorte d'amicale. En étant membre du parti, je suis assurée que, où que j'aille en Chine, ou même dans ma ville, je serai promu, j'aurai des responsabilités, etc. Mais c'est aussi pour une partie de la population un honneur. Toujours cette jeune femme que je rencontre à Canton, qui est jeune avocate, elle me dit le jour où le secrétaire du parti m'a proposé d'être membre du parti, j'étais fière et j'ai fait une fête. Et je pense que ces deux côtés-là existent. Cela dit, la même me disait, 4 ans plus tard, qu'elle était extrêmement déçue, à la fois parce que le rôle social qu'elle pensait avoir n'existait plus, et deuxièmement parce que c'était la période, on était près de Chongqing, c'était la période où il y avait le procès d'un des dirigeants du Parti communiste chinois, Bo Xilai, qui a été très controversé parce qu'il était évidemment corrompu, mais c'est quand même assez courant, mais qui avait pris toute une série de mesures pour les migrants, justement. Et il y a eu un vrai débat, il y a eu un procès public après, il a été arrêté, c'était une des figures montantes du Parti communiste chinois, et donc il y avait plein de réunions, quand j'y étais à ce moment-là, plein de réunions du parti local, où on expliquait aux jeunes ce qu'elles devaient dire à leurs collègues, ce qu'elles devaient dire à leurs voisins, etc., et pas question d'en dévier, parce que si vous déviez de l'explication officielle, vous avez le droit, bien sûr, vous n'allez pas vous retrouver dans un camp de travail, évidemment, mais faut vous expliquer, faut affronter les autres, trop compliqué, et donc elle laissait tomber, c'est-à-dire qu'elle n'allait plus aux réunions, mais elle était extrêmement déçue. Cela dit, voilà, est-ce que... Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que localement, la corruption, vous voyez, il y a plein d'exemples de corruption dans le... Localement, il y a un vrai rejet des dirigeants du Parti communiste chinois corrompus. Ils sont quand même assez nombreux. Et ça, c'est vraiment... ils ne supportent plus, d'autant que la corruption s'est étendue. Moi, je suis la Chine depuis très longtemps. On avait la corruption des affaires, si je puis dire, qui est assez courante. Et puis, on est passé à la corruption, comme on le voit là, dans le film. C'est-à-dire, tout d'un coup, le secrétaire du parti décide que vous allez, c'est un péage et que vous allez payer. Donc, c'est pareil pour votre fils ou votre fille à l'école. L'enveloppe rouge, on appelle ça les enveloppes rouges. L'enveloppe rouge, vous devez la donner pour que votre fils ou votre fille passe à l'échelon supérieur. Donc, la corruption est devenue vraiment quotidienne et assez importante. Et là, il y a vraiment une détestation de la population, avec des arrestations, avec des violences. Hein, on n'a pas vu là, mais quelquefois, c'est extrêmement, extrêmement violent. Mais curieusement, jusqu'à présent, ça ne touche pas la direction du celui qui nous protège, l'empereur de Pékin. Ça ne touche absolument pas la direction. Pour l'instant, ça ne touche pas la direction centrale du parti. C'est-à-dire que c'est très fréquent qu'on vous dise oui, ça c'est les locaux, ils sont pas bien, machin. Mais voilà. Bon, est-ce que ça durera? C'est pas sûr. D'autant que quand même, comme je vous le disais, la corruption s'étend. Que la nouvelle équipe au pouvoir, Xi Jinping, sent que c'est plus possible, que il va falloir que ça fait partie des choses qui peuvent faire sauter la cocotte, et qu'il y a un vrai travail contre la corruption, et les têtes tombent. Et c'est pas des petites têtes qui tombent en ce moment, c'est plus simplement les petits fonctionnaires. C'est le patron des chemins de fer qui a été convaincu après l'accident que vous avez vu là, qui a été convaincu de corruption. Mais c'est aussi notamment le patron de Chongqing. Mais le patron de Chongqing, c'était une bataille politique pour Chila. Mais il y a vraiment le patron de l'agence qui s'occupe des participations d'État. Et qui coordonne les participations de l'État dans les entreprises, qui vient d'être liquidée. Il y a une partie sur la Banque de Chine qui vient aussi d'être liquidée. Donc, ils essaient de taper un peu plus haut. Ils tapent même assez haut, sauf au très très haut, hein. Mais il y a une un tel rejet, une telle volonté de la population d'en finir avec ça, qu'il est obligé de taper fort. En même temps, en tapant fort, évidemment, il met en cause des intérêts, et c'est un moment où il y a des réformes, donc c'est toujours un peu... C'est ça qui fait que c'est tangent, c'est-à-dire que on sent que c'est plus possible de continuer comme ça. Je crois vraiment qu'il y a une volonté, avec cette direction-là, de bouger pour rester hein, en place, hein. On est d'accord, et elle a affaire à des intérêts, elle met en cause des intérêts qui sont très contradictoires. Par exemple, je parlais des migrants qui ont un certificat de résidence et qui donc n'ont pas le droit à l'école, à la santé, etc. Donc il y a une réforme qui est en train de se mettre en place. Et pour faire cette réforme, par exemple, pour accueillir, il y a eu une bataille, je ne sais plus dans quelle ville, je crois que c'est Canton, mais j'en suis pas sûr. Je crois que c'est Shanghai, pardon, mais j'en suis vraiment pas sûr. Il y a une bataille parce que une jeune fille avait obtenu son diplôme pour rentrer au lycée, et donc une jeune fille de migrant, et donc devait rentrer dans le lycée. Simplement, elle n'a pas eu l'accord puisque le coût ne lui permettait pas d'aller dans le lycée dont où ses parents habitaient. Il y a eu une vraie mobilisation sur les réseaux sociaux, qui sont quand même maintenant très 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 actifs. Cette jeune fille a été intégrée dans le lycée, donc tout se semblait finir bien, sauf que, je crois que c'est Shanghai, sauf que les parents du quartier ont vigoureusement protesté parce qu'il faut qu'ils payent évidemment pour cette jeune fille. Et donc qui dit nouveau droit pour les migrants dans la ville veut dire impôts supplémentaires. Or les couches moyennes qui vivent très très bien sont très peu partageuses. Donc il y a un vrai conflit pour la mise en place de ce coût, et on ne sait pas ce que ça peut donner. On ne sait pas.
Quel est l'espoir pour les 400 millions de migrants, vu qu'il y a pas de modèle économique alternatif? Ils peuvent supprimer les abus, c'est pas ça qui change le modèle. Donc qu'est-ce qui les motive? Est-ce que c'est les esclaves en fait de la Chine aujourd'hui? Est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'ils ont une porte qui leur cible aujourd'hui pour s'en sortir?
C'est une question un petit peu difficile. D'abord, je suis pas sûr qu'on peut se parler d'esclaves. Je suis désolée.
Non, mais...
Je suis pas sûr parce que effectivement, ils travaillent dans des conditions épouvantables. Hein. Je suis pas en train de dire qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Et en même temps, ils sont en train de conquérir des droits. En même temps, ils se laissent pas faire. En même temps, ils vivent mieux parce qu'il n'y a pas eu de révolte des migrants. Enfin, il n'y a pas eu de révolte des migrants parce qu'on peut se poser cette question. Il n'y a pas eu de révolte des migrants parce qu'ils vivent mieux quand ils sont à Shenzhen, chez Foxconn ou ailleurs, que s'ils étaient restés à la campagne, évidemment. On vit mieux quand on est dans le bâtiment, ou même quand on est dans la restauration, pour beaucoup de jeunes filles qui vivent dans des conditions épouvantables, souvent insoumises à la... Vraiment, alors là, pour le coup, esclaves des patrons, dans les petits restaurants, les choses comme ça, là c'est vrai. Mais tu penses pas pour le reste, parce que tout simplement, on vit mieux en étant là que si on était resté à la campagne. Donc ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire que il y a une classe ouvrière qui est en train de se former, comme pouvait se former la classe ouvrière au XIXe siècle, et qui est en train de conquérir des droits, et qui le fait avec pour une partie d'entre elles, assez détermination. Est-ce que le pouvoir, est-ce qu'il y a un modèle économique alternatif? Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est pas le capitalisme au sens sauf le capitalisme sauvage du XIXe siècle. C'est un capitalisme d'État. Vous savez, l'État est régulateur, il sert avec la régulation, mais quand même, c'est un État qui intervient. La question qu'ils ont aujourd'hui, c'est ou la privatisation, comme leur propose la Banque mondiale, ou laisser le système actuellement, qui est un système étatisé. Donc voilà, ils sont en train de chercher quelque chose. De toute façon, c'est le capitalisme. Il n'y a pas l'ombre d'un je ne sais pas s'ils ont été quelquefois communistes, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont capitalistes, ça c'est certain. Est-ce qu'ils cherchent un modèle qui ne soit pas le modèle occidental, et parce que le modèle occidental les fera sauter, hein, ils sont pas voilà. Ils cherchent quelque chose, et pour l'instant, ils n'en ont pas trouvé, ni en modèle économique, ni en modèle politique, ni en modèle, je dirais, non productiviste.
Oui, excusez-moi. Est-ce que vous voyez en Chine la montée d'une justice indépendante du parti, ou est-ce que tout est dépendant du...
Il y a d'abord la construction. Il y a eu la construction en 30... Il y a avant 79, la profession d'avocat n'existait pas. Faut quand même vous dire que c'est pas vieux, hein, 80. Donc c'était la justice n'existait pas parce que c'était le parti qui décidait et que de toute façon c'était le tribunal du parti qui décidait. Donc Depuis cette période, il y a des lois, d'une part. Et, du point de vue des lois sociales, c'est rien à envier à la France. Hein. C'est une loi sociale. Enfin, c'est 40 heures, c'est pas 35, mais c'est 40 heures. C'est la l'égalité homme-femme. Enfin, il y a des lois sociales extrêmement importantes. Simplement, le problème, c'est qu'elles sont pas appliquées. Là, par exemple, le droit, le paiement des heures supplémentaires est naturellement inscrit dans la loi, mais elle n'est pas appliquée. Donc, il y a une série de lois sociales, avec d'ailleurs, il y a eu une montée assez forte de l'union patronale, de l'Union européenne contre, quand il y a eu cette loi est passée en début 2000, pour dire ça a augmenté les coûts salariaux et donc nous on va pas s'en sortir. Et de fait, ça a augmenté les coûts salariaux. Comme vous le savez, les salaires ont fortement augmenté en Chine au point que certains sont en train de délocaliser de Chine vers le Vietnam ou le Bangladesh. Encore mieux. On peut encore faire pire, mais ça continuera là où on peut faire pire, hein, c'est évident. Donc, il y a des lois, un, il y a des lois sociales, deux, il y a des avocats, trois, il y a un droit des affaires qui est de plus en plus respecté. Il y a le droit de la propriété qui est lui aussi de plus en plus respecté. Là encore une fois, pour des raisons, c'est ceux qui défendent leurs intérêts les plus au plus près du gouvernement, hein, c'est-à-dire le haut des couches moyennes qui sont devenus propriétaires de leurs logements et même de 5, 6, 7, 8 logements et qui ont défendu leurs privilèges et leurs droits auprès du parti et qui donc ont obtenu une série de lois. Il y a un état de droit qui s'est construit, mais et c'est là où vous avez raison, c'est que ça n'est pas droit, mais les juges restent sous la coupe du parti. Donc, par exemple, les grands cas de corruption, même à l'intérieur du parti, les grands cas de corruption qui sont tous des hauts cadres du Parti communiste chinois, c'est d'abord le Parti communiste chinois qui détermine s'ils sont coupables de corruption ou pas. Et après, ils peuvent éventuellement aller à un procès. On sait qu'il n'est pas, complètement indépendant. Le procès le plus spectaculaire qui a eu lieu ces dernières semaines, c'est le procès de Bo Xilai, celui dont je vous parlais, qui était le dirigeant du parti à Changxing, qui est une très grosse province, ville-province, qui était une étoile montante parce qu'il était assez soucieux de toute la partie. D'abord, il avait viré une partie de la mafia qui était à Changxing. On peut penser qu'il a mis la sienne, hein, mais en tout cas, il en a viré une partie. Et surtout, il avait fait tout un programme social pour les migrants. C'est-à-dire, les migrants, là, à Changxing, avaient le droit au logement, avaient le début de droit à l'éducation, etc. Donc, il avait quand même un certain poids dans l'intérieur du Parti communiste chinois. Et il y a eu un procès tout à fait spectaculaire. Presque en direct. On n'avait pas vu ça depuis le procès de la veuve de Mao. Je dis presque en direct parce qu'en vérité c'était en différé un peu, donc le temps d'enlever ce qui gênait un peu la direction du parti, on a enlevé d'ailleurs une petite partie. Mais il y a eu ce procès spectaculaire. C'était quand même la première fois qu'il y avait un procès suivi sur les réseaux sociaux et à peu près en direct. Mais on n'est pas dans un état de droit avec une indépendance des juges, absolument pas.
Oui, je voudrais savoir quelle est la réalité du système éducatif en Chine. Parce qu'on constate quand même qu'il y a de plus en plus d'étudiants chinois qui viennent en France, à Toulouse par exemple. Et je voudrais connaître un peu la réalité du système éducatif de la petite, de l'école élémentaire jusqu'à l'enseignement supérieur.
Il y a eu trois phases dans l'école. La première phase qui a été quand même la période maoïste, donc on va revenir très longuement, mais qui a eu comme réalité d'éduquer, d'apprendre à lire et à écrire aux enfants partout. Quand même, en Chine, il y a 80% de la population sait lire et écrire. On est à 60% en Inde. Je prends l'exemple de l'Inde parce que c'est juste à côté et ils sont à peu près le même nombre et ils ont fait leur décollage dans les mêmes proportions. Donc voilà, c'est ça donne ça. Ça c'est la première phase. La deuxième phase, quand il y a eu la phase de libéralisme, enfin libéralisme, il y a encore, mais la phase de desserrer les contraintes, je crois qu'on peut dire, en tout cas de demander aux entreprises de faire du profit et aux collectivités locales de se débrouiller. Dans les petites collectivités locales, surtout à la campagne, on a fermé les écoles. On a fermé les écoles, il a fallu, pour les enfants, faire quelquefois 10, 15 kilomètres pour aller à l'école. Là, il y a eu un tassement, qui se voit même dans leurs statistiques à eux, Dieu sait si, il y a des choses à dire sur les statistiques officielles, partout, mais en Chine aussi. Donc, il y a eu quand même un tassement. Et puis, depuis l'ère Hu Jintao, c'est-à-dire les deux précédents pouvoirs, on n'a pas fait que des choses bien, mais ont eu comme objectif de remettre des services publics. Et donc, on retrouve des centres de santé dans les campagnes et on retrouve des écoles qui fonctionnent plus normalement. Ça, c'est pour l'école primaire. Puis vous passez à l'école secondaire, vous passez l'examen pour passer les écoles secondaires. Là, c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir de l'argent, payer des cours, payer un certain nombre de frais de scolarité. Donc évidemment, ça écrème, hein, évidemment. Et puis, on revient au système de bulletin de résidence, certificat de résidence dont je parlais tout à l'heure, pour pouvoir, quand vous êtes né au fin fond de Roubaix, par exemple, vous ne pouvez pas venir faire vos études à Pékin, même si vous êtes très doué. Alors, il faut passer un examen. Quelquefois, il y a des exceptions, évidemment, surtout chez les cadres du parti, par hasard. Et puis, quand vous passez votre examen et que vous avez très, très, très bonne note, alors vous pouvez aller dans le district, dans le lycée du district, voire même de la province. Mais venir à Pékin, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Cela dit, c'est un système éducatif qui est très contesté parce qu'il est effectivement, notamment par les intellectuels chinois, parce qu'il est très posé, il repose sur la connaissance, il repose beaucoup sur la répétition, il repose beaucoup sur la transmission de la connaissance, mais vraiment quelque chose d'un peu fort, et beaucoup moins sur le raisonnement. On a le même problème à Taïwan, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un système éducatif qui pose sur ça.
Oui, bien. Ils ont eu du succès considérable puisqu'ils ont développé des fusées, ils ont mis des satellites. Donc en fait, il y a une élite intellectuelle qui...
Il y a une élite politique et intellectuelle. D'abord, il y a une élite politique. C'est-à-dire que ce parti communiste chinois a réussi la transition, on veut ou non, sans dégâts. Enfin, sans dégâts pour lui, sans chaos, qui est vraiment l'abomination de l'abomination pour les dirigeants chinois, enfin, pour les habitants et pour les dirigeants chinois. Donc, ils ont réussi à effectivement faire cette transition. Et ils travaillent ce que j'appelle moi la godie, c'est-à-dire ils testent, ils regardent ce que ça donne. Si ça marche, on élargit. Si ça marche pas, on évacue. Et au passage, on élimine ceux qui l'ont fait. Mais ça, c'est le problème du système démocratique. Et sur l'élite, évidemment qu'il y a une élite intellectuelle. Il y a une élite intellectuelle extrêmement importante. On le voit dans le cinéma, je viens de parler du point de vue de la littérature, mais c'est également vrai dans le domaine scientifique. Lenovo qui a racheté IBM, les hardware d'IBM, était une petite entreprise faite à la fac, parce que quand le Parti communiste chinois, disons milieu des années 90, s'est rendu compte qu'il fallait mettre cap sur l'innovation, ils ont mis énormément de moyens sur l'innovation. Une partie des cadres chez des étudiants chinois formés à l'étranger, notamment aux États-Unis, sont entrés. On leur a fait un pont d'or. La fierté nationale étant ce qu'elle est, ça a marché. Et donc, il y a énormément de start-up qui se sont développées. Et là, ils mettent le cap sur les nouveaux matériaux, sur la réduction d'énergie, l'utilisation d'énergie, les produits non polluants, etc., etc. Et à mon avis, effectivement, il y a une élite extrêmement importante. Et l'objectif, faire des études à l'étranger a d'abord été le fait d'une petite élite des cadres du parti. Et maintenant, on descend, sans doute à la fac de Toulouse, vous devez le voir, on le voit un peu partout, parce que je fais des conférences un peu, on descend vraiment beaucoup dans l'échelle sociale, c'est-à-dire que des enfants, on se cotise en famille, toute la famille se cotise pour que, quand on peut, donc ça veut dire quand même qu'on a un travail, évidemment, hein, mais se cotise pour que la fille ou le garçon vienne faire ses études en France, aux États-Unis ou en Angleterre.
Bientôt, à cause de la politique de l'enfant unique, le poids des retraités sera énorme pour la population active. Et donc, d'ici 10 ans ou 15 ans, il y aura peut-être un ralentissement économique, ne serait-ce que par ça, puisque les gens ne pourront pas dépenser pour leurs loisirs, parce qu'il y aura les vieux à entretenir.
D'abord, le ralentissement économique est aujourd'hui, hein, pour des raisons de... C'est un système qui a été basé pendant longtemps sur les exportations. Le marché se rétrécissant, évidemment, les exportations diminuent, donc la production diminue. Et puis, depuis 10 ans, ce sont les investissements publics qui ont pris le relais. Avec le problème des investissements publics non contrôlés, c'est-à-dire énormément de gâchis de capital. Donc ça, ils essaient de mettre un frein, et naturellement, plus ils resserrent les boulons du crédit, c'est-à-dire qu'ils ne donnent plus de crédit pour faire un certain nombre de projets complètement pharaoniques, autant qu'ils puissent le contrôler au niveau central, et donc la croissance est en baisse. Donc déjà, la croissance est en baisse, et ils essaient de tourner l'ensemble du système économique vers la consommation, ce qui n'est pas très simple, parce que quand on a des augmentations de salaire, on est quand même à l'ordre de 3-4% de pouvoir d'achat par an, pour ceux qui travaillent, hein, donc c'est quand même énorme. Mais tant qu'il n'y a pas de protection sociale à un haut niveau, les gens qui touchent plus épargnent plus, et épargnent plus pour l'école des enfants, et pour la retraite précisément, et pour la santé. La retraite, il me semble, on n'est pas tous d'accord sur ça, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de gros problème, enfin pour l'instant, c'est 10 prochaines années, hein, parce que il y a deux éléments qui jouent. D'une part, les femmes partent à la retraite à 55 ans, pour l'instant, et les hommes à 60. Ce qui laisse quand même des marges de manœuvre, notamment pour les femmes, pour les faire travailler un peu plus longtemps, tant que le système de retraite n'est pas mis à niveau. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, il y a une faible productivité. C'est-à-dire, c'est un système productiviste au sens où on utilise beaucoup d'énergie, on fait pas attention à la pollution, on fait travailler les salariés 11 heures, 12 heures par jour. Donc c'est une faible productivité. Réorganiser la production, travailler sur des nouvelles façons de produire, ce sur quoi ils travaillent vraiment. Enfin, c'est pas de la propagande. Je pense que ça devrait permettre de produire plus avec moins de personnes. Comme vous savez, la France est pareil. C'est-à-dire que effectivement, il y a plus de retraités pour des actifs aujourd'hui qu'hier, mais l'actif produit plus qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quoi, en termes de richesse. Donc, il y a encore de la marge de manœuvre. La question fondamentale, me semble-t-il, pour l'instant, c'est est-ce qu'il va y avoir à la fin de la politique de l'enfant unique, ou en tout cas l'assouplissement de la politique de l'enfant unique, est-ce que ça va rebooster la natalité ou pas? Pour l'instant, ça a été fait un peu à Shanghai, et on peut pas dire que ça a été très probant, donc on verra. Et puis le deuxième gros problème, c'est le manque de filles. Parce que comme vous savez dans cette société, comme c'est pareil d'ailleurs pour l'Inde, les filles sont pas forcément très bienvenues dans les familles parce que c'est de l'argent perdu. Hein, c'est elles qu'il va falloir qu'elles vont partir. C'est pas elles qui assument les grands-parents. Donc les filles, il y a un déficit de filles en Chine comme en Inde extrêmement important. Alors le pouvoir depuis longtemps lutte contre ça. Il est interdit de faire des échos. Autrefois, c'était dans les campagnes, on tuait, hein. Voilà, on tuait, mauvais traitement, bon, voilà. On avortait comme on pouvait. Aujourd'hui, avec les échographies, on peut savoir si on va avoir une fille ou un garçon. C'est totalement interdit. La loi vraiment interdit aux médecins de donner le sexe des enfants. Mais comme vous le savez, la corruption est telle que ça ne sert pas à grand-chose. Et pour l'instant, il est toujours beaucoup plus de garçons que de filles, de façon déséquilibrée. Et ça, c'est un problème, parce que c'est un problème pour la natalité, pour les futures générations de natalité. C'est aussi un problème pour, notamment dans les campagnes, pour trouver une femme, vivre en couple, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est, il me semble, à moyen terme, le très, très gros problème. Et là, franchement, à part l'immigration, il n'y a pas de solution.
Par l'importance des migrants, comment évoluent les campagnes? Parce que est-ce qu'il y a un afflux d'argent qui crée du dynamisme, de l'investissement dans de la mécanisation au niveau des fermes, ou comment évoluent les campagnes?
Là aussi, il y a eu trois étapes avec la libéralisation, c'est-à-dire quand il y a eu la décision de faire les réformes économiques en 79-80, les campagnes s'en sont plutôt bien sorties parce que on a autorisé d'abord, on a distribué les terres, hein, de façon égalitaire. Chaque famille a reçu une parcelle de terre avec la possibilité de l'utiliser. Et deuxièmement, on a légalisé les entreprises informelles qui existaient, donc elles ont augmenté. Quand on a réduit, donc le revenu paysan a augmenté. Quand on a commencé à réduire les subventions, etc., le revenu des paysans a complètement chuté. D'où cet afflux de migrants qu'on avait besoin en plus pour les villes. Les campagnes, on est dans deux cas de figure. D'abord, un recul des terres arables pour des raisons d'urbanisation intensive et incontrôlée. Tous les ans, il y a une résolution qui dit c'est pas possible, on peut pas continuer, mais enfin tous les ans le terre recule. Tout simplement parce que ça dépend, c'est très décentralisé. On n'a pas l'air, enfin on a l'impression que la Chine c'est un truc que on décide à Pékin et tout s'applique. On décide à Pékin et rien ne s'applique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une grande décentralisation et les dirigeants locaux font ce qu'ils veulent, grosso modo, hein, sauf quand vraiment ça commence à bien faire. Donc il y a vraiment un recul des terres arables. Il y a l'autre deuxième élément chez les paysans, c'est les villages qui sont quasiment vides, avec des vieux et des jeunes. Des vieux, parce qu'ils peuvent pas aller en ville, et les enfants des migrants qui sont à l'une. Ce qui est un problème énorme d'éducation, de développement pour les enfants qui sont élevés vraiment des villages, c'est vraiment que des vieux, hein. Plus des vieux dans le village, quand même édentés, enfin, dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Ça, c'est la deuxième partie du tableau. La troisième partie du tableau, c'est que on essaie de recouper les parcelles. C'est la nouvelle phase c'est la réforme de l'agriculture qui va se mettre en place. Elle a déjà été expérimentée dans certains endroits, c'est-à-dire d'essayer de regrouper les parcelles pour avoir une productivité meilleure, sans utiliser trop d'engrais et autres éléments comme ça. En même temps, je fais une parenthèse, mais c'est un des grands producteurs d'OGM, même si on n'a aucune statistique sur les OGM. Tous les gens que je connais qui travaillent sur les paysans disent qu'il y a des OGM, mais quand on regarde les statistiques chinoises, on n'en trouve pas. Mais enfin, tout le monde dit qu'il y en a, donc je suis assez incliné à croire qu'il y a des OGM pour arriver à booster la production. Mais ils ont un problème de sécurité alimentaire. En plus, chez le dirigeant chinois, le problème de la sécurité alimentaire est une question d'indépendance, et donc une question extrêmement sensible. Donc il y a des essais de regroupement. Il y a des essais de regroupement faits de façon coopérative avec des ONG à peu près correctement, avec des gens qui ont envie de mécaniser de bonne façon. Et puis c'est quand même les cas les plus fréquents, c'est les regroupements décidés comme dans le film, celui qui a acheté la mine en disant aux villageois j'achète la mine mais je vous redonnerai les bénéfices. Il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de villages où le chef du village a vendu les parcelles, soit un géant de l'agroalimentaire. Maintenant, il y a de plus en plus d'étrangers qui interviennent dans la production agricole et les paysans ne voient rien. Et puis un quatrième mouvement, ils ne voient rien venir comme ressource évidemment. Ça a donné lieu, par exemple, il y a un an et demi, deux ans, une vraie révolte de paysans à Wuhan, près de Canton, les paysans ont pris le maire du village qui avait vendu les terres, pris le secrétaire du parti, et ils ont un peu secoué les autres aussi d'ailleurs. Donc il y a eu un mort. Ça a été assez violent, comme assez souvent quand ça se tend comme ça. Cela dit, après 15 jours, les forces de l'ordre ont entouré le village, ça a duré 15 jours, les réseaux sociaux, très important, on n'en a pas parlé là, mais les réseaux sociaux, Internet est un élément extrêmement important de la démocratie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas de la participation des gens aux affaires qui les concernent. Il y a eu une mobilisation Internet, il y a eu donc le secrétaire du parti et le secrétaire et le maire du village ont été arrêtés. Il y a eu des élections locales et pour la première fois, c'est celui qui a mené la bataille qui a été élu, qui a pu se présenter, qui était déjà colossal, et qui a été élu par le village. C'est la première fois que ça arrive. Donc on peut penser que peut-être, dans d'autres moments, ça pourra arriver. Le quatrième élément, qui est totalement marginal, mais qui commence à exister, qui est en quelques cas, ce sont les migrants qui ont un peu réussi, qui veulent, comme marre de vivre dans la pollution dont on parlait là, ou dans des conditions extrêmement difficiles, qui ont amassé un peu d'argent, qui retournent au village et qui essaient de travailler autrement la terre et de regrouper les villageois. Franchement, c'est marginal, hein. Mais ça existe. On commence à avoir des cas et de façon assez étonnante, on en trouve dans la presse officielle, ce qui veut dire que c'est quelque chose que les gens interprètent comme un signe de volonté d'essayer de repeupler les campagnes. il y aura une grande réforme. Là, il y a une vraie bataille. Enfin, une vraie bataille. Il a été décidé lors de ce fameux troisième plénum du 18e comité central qui a eu lieu il y a 15 jours, donc qui a été le plan de route de la nouvelle direction de Xi Jinping. Il a été décidé de faire une grande réforme de la terre avec des choses très contestables comme vendre la terre au prix du marché, puisque pour l'instant, la terre est propriété de l'État. Les paysans ont le droit à vie de l'utiliser et leurs enfants aussi. Le droit d'usage se transmet tout au long de la vie. Mais là, il a été décidé de pouvoir vendre les terres très directement. C'est-à-dire que le paysan qui a sa parcelle de terre pourra la vendre et pourra la vendre au prix du marché. C'est-à-dire, il y a un très très grand risque d'avoir naturellement une spéculation immobilière, notamment à l'approche des villes. Donc il y a une bataille à l'intérieur du Parti communiste chinois, à l'intérieur du haut niveau du Parti communiste chinois sur cette question de la réforme de la terre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au cours des 5 prochaines années, elle sera amorcée parce qu'on ne peut plus rester comme ça.
Oui, moi, ce serait une question concernant la politique internationale de la Chine. Bon, c'est un sujet vaste, donc je ne sais pas si on pourra. Mais que pensez-vous des tensions actuelles entre la Chine et le Japon, avec l'extension de la zone territoriale et ces îles-là qui sont contestées entre les deux pays? On présente la Chine comme... excusez-moi. Dans cette histoire, on présente la Chine comme avec une visée nationaliste. Mais enfin, on connaît aussi les visées nationalistes des Japonais, donc c'est... C'est pas ça.
C'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est une confrontation des deux nationalismes. Avec quand même pour la Chine une vraie difficulté qui est née de la nouvelle, enfin du droit de l'ONU sur les mers, qui a changé dans les années 80. Le problème de la Chine, c'est que, je veux dire, c'est assez simplement, elle a autant de côtes, elle compte autant de côtes, évidemment, que le Japon. C'est-à-dire en kilomètres, 30 000 kilomètres de côtes des deux côtés. La Chine a un domaine maritime de 87 000 kilomètres carrés et le Japon 4 millions. Voilà. Et quand vous regardez la carte du Japon, de la Chine, vous voyez que la Chine est coincée entre, mais du point de vue de l'accès au Pacifique, de l'accès à la mer, avec le Japon, Taïwan, les fameuses îles Senkaku, la Corée. Donc, elle a un vrai problème d'accès à la mer d'une part et de contrôle des routes maritimes. 80% de ses exportations énergétiques se font par la mer, évidemment. Ses importations, énergétiques se font par la mer. C'est le premier importateur d'énergie aujourd'hui. Évidemment, elle ne contrôle rien. C'est contrôlé par les alliés, par les États-Unis et par les alliés des États-Unis. Donc évidemment, ils ont un vrai problème objectif. D'autre part, compte tenu, ça tient à l'histoire, hein, ça tient au fait que les Senkaku, qui étaient dans la sphère chinoise, parce qu'on ne peut pas dire que c'était sous l'autorité chinoise, c'était dans la sphère chinoise jusqu'en 1895, ont été annexés par les Japonais. Donc, à partir de ce moment-là. Quand après 45, lors de la guerre entre donc le Japon et Chine, le Japon a occupé la Chine, hein, comme vous savez, notamment pendant toute la période de 1830 à 1945, hein, dans des conditions de colonisation extrêmement épouvantables, avec des massacres, avec des méthodes qui ne doivent rien aux méthodes qu'on a connues en Europe. Hein. Donc c'était une vraie occupation extrêmement forte. Donc tout ça pour dire que quand en 45, un peu plus tard, quand le sort du Japon a été réglé avec le fameux traité de San Francisco, je ne rentre pas dans les détails, mais donc quand il y a eu un accord entre les Américains et les Japonais pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale et faire dégager, si je puis dire, les Japonais de la Corée, de la Chine, les îles Senkaku, Okinawa et les îles Senkaku sont restées dans la stratosphère. Et c'est vrai que c'est resté sous autorité japonaise depuis, sans qu'il y ait un traité qui dise c'est au Japon. C'était des îles détenues par des propriétaires privés japonais sous contrôle, sous administration japonaise, reconnue comme ça d'ailleurs, hein, implicitement, sans que ce soit dans les traités, jusqu'au moment où il y a deux ans, oui, c'est ça, il y a deux ans, le gouvernement japonais décide, il y a un an, le gouvernement japonais décide de racheter aux propriétaires privés japonais une des îles, enfin deux des îles, Senkaku, ce qui naturellement était une façon de montrer à la Chine, c'est notre île et c'est nous qui l'administrons. C'est de là, il y a eu des incidents bien avant, hein, mais c'est de là que les incidents se sont multipliés, se sont développés. C'est d'autant plus important pour les Chinois qu'ils n'ont pas, c'est le seul pays de la région qui n'a pas de zone de zone de défense aérienne et d'identification. Il n'en avait pas. N'avait pas parce que la Chine a été repliée sur elle-même de 45 à 80, enfin les années début des années d'ouverture, que son premier principe a été de se développer et de s'occuper de son environnement bien plus tard. Ça, c'est le contexte général. Cela dit, la Chine, actuellement, le pouvoir chinois a décidé de tendre les relations pour des raisons, alors là, de politique intérieure et de nationalisme aussi. Il y a des raisons objectives qui sont difficiles à résoudre. L'une des solutions serait que ce soit sous administration collective, je parle des îles Senkaku, et notamment du terrain maritime, enfin du domaine maritime, ce que c'était autrefois, hein, avant qu'il y ait ce droit de l'ONU de 82, ce qui pose quand même le problème de la zone de défense aérienne. Mais cela dit, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et là-dedans, on a oublié le troisième interlocuteur, naturellement, ce sont les États-Unis. Les États-Unis qui, après avoir s'être aperçu qu'il ne remodèlerait pas le Proche-Orient, que la guerre d'Irak, l'Iran, machin, bon, voilà, qui ont décidé le fameux tournant asiatique, le shift, Asian shift, comme l'a dit Obama, et qui pense que son principal compétiteur aujourd'hui, c'est la Chine, et qui donc essaie de contenir la Chine par tous les moyens. Et on a vraiment un jeu à trois, mais qui est un jeu extrêmement dangereux. Alors on a déjà eu ce jeu, c'est pas nouveau ce jeu à trois, on a eu ce jeu à trois quand, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, avec Taïwan. Un moment où il y a eu une tension extrêmement forte entre États-Unis, Taïwan et la Chine. Et puis ça s'est calmé. On peut même dire que les relations entre Taïwan et Pékin ont jamais été aussi bonnes. Et ce qui est assez étonnant, puisque c'est le frère ennemi, le Kuomintang, le frère ennemi d'hier, qui noue des relations extrêmement étroites, pour ne pas dire plus, avec Pékin, alors que le parti taïwanais indépendantiste a été complètement écarté. J'ai bien conscience de faire ça à coup de serpe, mais c'est un peu compliqué.
Y a-t-il une résurgence des croyances religieuses ?
Oui, comme partout. Et là, oui, enfin, ça prend pas le pas sur la vie de tous les jours. C'est-à-dire, d'un coup, quelqu'un qui se dit, je vais pas faire telle chose parce que la religion l'interdit. Mais ce qui est vrai, ce qu'on a vu là, quand on a vu, il y a deux références au temple. Le premier, quand il va tuer ce patron au temple, premièrement, et temple bouddhiste. Et puis deuxièmement, quand il prend ses trois cigarettes, voilà. Et puis même le portrait de la Vierge, hein, vous avez vu se balader. La religion catholique, chrétienne et catholique est assez pourchassée, en tout cas... très difficile, c'est assez compliqué quand on est prêtre, hein. C'est vraiment compliqué. Les bouddhistes ne sont pas, y a vraiment pas de problème, c'est ils ont pignon sur rue, y a vraiment plus aucun problème. Il n'y a pas de problème avec les musulmans, oui. Les musulmans, oui, c'est-à-dire les musulmans sinisés, il n'y a pas d'anti-musulmans, vraiment. Enfin, moi, je n'ai pas constaté de mouvement anti-musulmans. En revanche, il y a un mouvement contre les Ouïghours, pour des raisons qui sont musulmans, pour des raisons qui tiennent moins, à mon avis, à la religion qu'au problème de frontières, c'est-à-dire c'est une région frontière avec l'Asie centrale, et évidemment, ils sont très attentifs à leurs frontières. J'ai mis à part, parce qu'on n'en a pas parlé, je ne propose pas qu'on entame le débat là-dessus, j'ai mis à part le Tibet, évidemment.
Une dernière question, peut-être ?
C'était pour savoir un petit peu l'état du système de santé, en fait, là-bas, et si il y a un affrontement, une complémentarité entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne.
Il y a eu un affrontement jusqu'au moment où les dirigeants se sont aperçus qu'ils pouvaient faire de l'argent avec la médecine traditionnelle. C'est à coup de serre, c'est un peu volontairement à coup de serre. La médecine traditionnelle a toujours joué un rôle important. Et notamment, le grand succès sur le relèvement de la du taux de comment dire, du niveau de vie, pas du niveau de vie, de la vieillesse, enfin fait, de l'espérance de vie, pardon, excusez-moi, je change mon mot, cherchez mes mots, est due vraiment à un mélange entre ce fameux médecin au pied nu dont on a parlé, c'est-à-dire vraiment une éducation populaire sur l'hygiène, sur la façon de soigner, et la médecine traditionnelle. Ça a toujours joué, même sous Mao, c'est curieux, mais ça a toujours joué un rôle important. Et puis, il y a eu, dans les années 80-90, des grands pleins bouleversements. Bon, on a fermé des centres de santé pour la même raison que les écoles dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, on a commencé à ne plus les financer, donc on s'est retrouvé quand même avec de sérieuses difficultés. Et puis, il y a eu un grand mouvement dans les villes de privatisation des hôpitaux, avec des cliniques. Et donc là, il était quand même très bien de se faire soigner selon la médecine occidentale, avec une valorisation dans les feuilletons, dans les publicités, et puis, on est dans cette période-là. D'abord, on est revenu à une fierté chinoise, entre guillemets, la médecine en fait partie, et on est revenu à un mélange entre les deux. Globalement, on continue à soigner beaucoup par les plantes, notamment, pas mal par l'acupuncture, évidemment, et ça se développe maintenant, pas seulement là où on peut pas faire autrement, c'est-à-dire dans les endroits où on n'avait pas beaucoup de moyens, mais ça se développe aussi, c'est dans les très grandes villes et chez les riches. C'est-à-dire qu'on joue sur les deux tableaux, et puis les Chinois pensent qu'ils peuvent en faire, enfin les dirigeants, hein, toujours la même chose, les Chinois sont idiots, mais en tout cas les dirigeants chinois pensent qu'on peut en faire un peu d'argent, et donc que ça devient un secteur rentable, et que donc ça vaut le coup de développer. Mais il y a eu un gros débat, hein. Il y a eu un gros débat avec le ministère de la Santé, il y a eu le ministre de la Santé qui avait démissionné, enfin il y a eu vraiment des gros débats sur cette question de est-ce que la médecine traditionnelle doit continuer, puis après, c'était est-ce qu'il ne faut pas qu'elle prenne le pas sur la médecine.
Elle se développe tellement bien qu'elle s'approche énormément
de
France
aujourd'hui. Absolument. Mais ça fait partie, on en parle rarement, mais ça fait partie du soft power chinois. Mais c'est vrai que ça se développe, ça tient au fait que, mais ça tient aussi au fait en France, en Occident, des excès de la médecine traditionnelle pour nous, c'est-à-dire la volonté de trouver des alternatives à elle est chère en plus, de trouver des alternatives au tout médicament, quoi, en quelque sorte. Mais c'est vrai que ça se développe beaucoup. Il y a quand même des cours à la fac maintenant, parce que quand même une période où c'était pas du tout de cours à la fac sur l'acupuncture. Il y a quelques séminaires, mais quelques séminaires sur l'acupuncture et sur la médecine traditionnelle chinoise, ça commence à se développer. Et je pense que les Chinois ont vu qu'ils pouvaient en faire, les dirigeants chinois, ceux qui savent, les dirigeants économiques, les leaders économiques ont pensé qu'ils pouvaient en faire. Et à mon avis, il y a une grande bataille actuellement contre les groupes pharmaceutiques occidentaux on a beaucoup dit que c'était une chasse aux occidentaux. C'est pas une chasse aux occidentaux. C'est tout simplement le fait que les grands laboratoires occidentaux ont effectivement corrompu les médecins, les hôpitaux, etc. pour qu'on achète leurs médicaments. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est assez classique. C'est pas le seul, c'est assez classique. Mais surtout, d'abord, ils ont imposé des prix, à des prix assez exorbitants. Et deuxièmement, c'est-à-dire supérieurs au marché international. Et deuxièmement, ils ont leur pression, c'est pareil en France, leur pression publicitaire, entre guillemets, telle que ça a tendance à faire reculer les médicaments traditionnels. Et donc, il y a une vraie bataille assez forte, avec des grosses amendes, avec l'arrestation des dirigeants corrompus. Enfin, il y a une vraie bataille à l'intérieur de la Chine sur ça. C'est intéressant. Tout ça, c'est intéressant.
Il y a quand même un vrai problème économique au soin.
Il y a, ça dépend où, ça dépend quand. C'est-à-dire que, il y a les hôpitaux, dans le Pékin, pour prendre l'exemple de Pékin, mais on peut y accéder sans trop de difficultés. Mais, C'est là que ça se complique. D'abord, faut payer. D'abord, c'est très cher. Quand je disais que tout à l'heure que tant qu'ils n'avaient pas fait un système de protection sociale performant, toutes les hausses de salaire iraient dans l'épargne parce que les gens font cette épargne de précaution. Si vous avez une maladie un peu difficile, ça coûte énormément cher. Donc, c'est la famille, c'est toujours la même histoire, hein, c'est la famille qui se cotise pour qu'on puisse se soigner. Et puis, il y a l'accès, ça, c'est des coûts. À Shanghai, par exemple, ce sont des grandes villes, évidemment, mais à Shanghai, il y a plus de cliniques privées que d'hôpitaux publics. Quand même, des problèmes. Et c'est pas, elles sont pas, dans ces cas-là, elles sont plus chères que les hôpitaux publics. Et puis, il y a tout le maillage qui existait, qui était vraiment un vrai maillage, dans les campagnes des dispensaires, des centres de santé, etc., qui avait complètement disparu. Ça revient. On est en train, moi j'ai constaté, je suis allé dans plusieurs fois dans les campagnes, voir où il y a des... Ils travaillent dans des conditions difficiles, les médecins qui sont là, mais c'est des médecins qui ont décidé de revenir et de travailler et d'essayer de réimplanter une médecine locale et qui sont aidés par le pouvoir pour deux raisons. Pouvoir central, pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils ont un problème de chômage des jeunes très qualifiés. Et donc, ça permet d'envoyer des jeunes qualifiés, de donner de l'argent pour que les jeunes qualifiés aillent dans le système éducatif et dans le système de santé dans les campagnes. J'espère que personne ne veut y aller, évidemment. Et puis, deuxièmement, là, il y a un vrai besoin de santé publique dont ils sentent bien que s'il ne faut pas quelque chose, ça sera là aussi problématique. Mais ça coûte effectivement extrêmement cher.
Bon, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci.